France Info.
Bonjour François Barouin.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est la suite du bac, 100 000 lycéens qui vont passer le rattrapage pour certains. En plein mouvement de grève de certains enseignants, Emmanuel Macron hier a eu des mots très durs à leur égard. Écoutez.
Moi je respecte chacune et chacun, je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale, mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits, tout le monde a des droits, mais on a des devoirs.
Est-ce que vous aussi, vous trouvez que ces professeurs grévistes sont des preneurs d'otages, comme le dit le chef de l'État ?
Je n'ai rien à dire sur ce que vient de dire le président Macron, je crois qu'il a raison. Le droit de grève est imprescriptible, il y a la possibilité de s'exprimer. Il y a des droits, il y a des devoirs pour un fonctionnaire.
Le mot n'est pas trop fort.
En tout cas, c'est l'expression certainement du ressenti des familles, de ces enfants. Le bac, il y a presque une mythologie autour de cela. C'est un rendez-vous pour tout un parcours, primaire, secondaire. C'est la fin d'une étape, c'est l'entrée dans une nouvelle autre. C'est tellement fort dans l'inconscient collectif français que c'est même inconcevable que des professeurs puissent imaginer ne pas donner les notes d'un élève qui a travaillé toute l'année. Il faut le faire avant, il faut le faire après. Il y a sûrement des justes causes de leur point de vue. La réforme peut être contestée. Ils ont des capacités de mobilisation. Ils ont donné le sentiment d'une impuissance à ne pas pouvoir inverser l'ordre des choses du texte Blanquer. Et ensuite arriver à ce baccalauréat en disant de toute façon le bac ne vaudra rien puisqu'on n'a pas donné les notes. C'est pas bien. Donc je soutiens ce que dit Emmanuel Macron et je pense qu'il y avait d'autres moyens de s'exprimer.
Renaud Dely.
Vous le soutenez, François Barouin, ça signifie que si le gouvernement, comme l'a laissé entendre Jean-Michel Blanquer, envisage des sanctions à l'encontre des correcteurs grévistes, notamment des retenues sur salaire, vous trouveriez ça justifié ?
Absolument. Je pense qu'on peut pas laisser ça sans suite parce que sinon c'est évidemment la porte ouverte à toute une série de débordements. Je rappelle que le point d'inflexion qu'il y a eu dans le blocage au niveau de l'éducation nationale et plus globalement à l'échelle du pays a été fait sous la présidence Chirac lorsque les jours de grève, notamment dans l'éducation nationale, n'avaient pas été payés. Et à partir de ce moment-là, les formes de grève ont été opérées de manière différente. Ça n'a pas empêché chacun de s'exprimer, de porter ses revendications, ce qui est légitime dans une démocratie vivante, mais ça n'a pas permis d'avoir dans la durée et dans les décennies un blocage du pays sur tous ces sujets. Donc je crois qu'il faut être ferme, je crois qu'il faut effectivement des sanctions et je crois qu'il ne faut pas laisser une forme d'exemple de mouvement par des agents de service public à la mission élevée qui concerne justement nos enfants se poursuivre et se perpétrer.
C'est une réforme que vous soutenez, vous, cette réforme de Jean-Michel Blanquer, sachant qu'elle ressemble un peu à ce que vous aviez essayé de mettre en place en 2005 et 2007 quand la droite était au pouvoir, avec cette prise en compte du contrôle continu.
Oui, moi je pense que ça va dans la bonne direction. Ce sont des idées de bon sens appliquées. Le bac n'est pas que sur 3 jours, je le disais, c'est la sanction de tout un parcours. Un enfant au primaire, nous en savons quelque chose, nous les maires, puisque nous les accompagnons jusqu'au CM2. Ensuite, il y a tout le parcours du lycée. Ça peut pas être sanctionné exclusivement sur 3 jours avec la charge de stress. Et l'effort inscrit dans la durée à travers le contrôle continu est une bonne prise en compte. Donc c'est une...
Même si
c'est
ça
une...
peut créer des différences entre les établissements, puisqu'il y a des établissements évidemment qui sont mieux cotés que d'autres.
Oui, certainement. Alors d'une certaine manière, ça mettra peut-être même une différence à l'envers, en quelque sorte, puisque les notes dans les grands lycées parisiens seront en général plus faibles en contrôle continu qu'elles ne le sont. Donc il y aura un nivellement, mais de toute façon, il fallait évoluer, il fallait avancer. Je suis pas sûr qu'on aurait fait une autre réforme. Et nous avons porté pendant de nombreuses années ce type de mesures, donc il faut être cohérent et ne pas s'accrocher dans une position contraire.
Renaud Dely.
Emmanuel Macron était l'invité de France Info hier. Il a été interviewé peu avant la finale de la Coupe du Monde de football, de la Coupe du Monde féminine de football à Lyon. Et il y a un autre sujet sur lequel le président de la République a ouvert une polémique avec précisément une maire, en l'occurrence la maire de Paris, Anne Hidalgo. Il lui a reproché d'avoir écarté Total de la liste des sponsors des prochains Jeux Olympiques, enfin des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. On l'écoute.
Total doit s'engager dans une politique de transition énergétique, c'est ça ce qu'il faut faire, il faut les aider à cela. Et si Total peut mettre de l'argent pour financer, aider à financer des jeux verts, si Total peut mettre de l'argent pour aider à financer la transition, c'est une bonne chose. Mais moi, qu'on me trouve l'argent privé, qu'on écarte. C'est plus facile d'aller l'écarter en donnant des leçons de morale que d'aller en trouver.
Est-ce qu'il faut se priver de, en l'occurrence, 100 millions d'euros pour sauver la planète ? Non, je que pense, c'est de ça qu'il s'agit.
Je pense pas. Je pense qu'il y a un petit peu de politique et de positionnement de la part de d'Anne Hidalgo dans ce sujet. Après tout, elle adresse aussi un message fort qui fait réfléchir. Mais je pense que c'est regrettable parce que Total est une immense entreprise. Vous avez des gens, des dizaines de milliers de personnes qui travaillent. Leur travail n'est pas indigne. Il est simplement en transformation. Et Total est un acteur majeur. C'est quand même un fer de lance de l'industrie à la française. Donc ça doit être un partenaire des Jeux Olympiques. Je crois qu'il faudra qu'ils reviennent autour de la table. J'ajoute que
On peut décréter l'urgence climatique et dire bienvenue à Total, qui est effectivement une entreprise qui pollue considérablement.
Non, mais dans ce cas-là, vous montrez du doigt les malheureux salariés qui travaillent chez Total sur le thème. Vous êtes les premiers pollueurs, arrêtez de travailler.
C'est pas les salariés de Total. C'est la direction de Total qu'on peut inciter, oui, peut-être par d'autres moyens, par exemple sur le plan fiscal, pour les inciter à aller vers la transition écologique, comme le disait Emmanuel Macron.
Oui, mais ils le font. Enfin, je voudrais que sur ces sujets-là, on prenne bien la dimension sociale. C'est pour ça que je parle des salariés. C'est que vous avez des gens derrière qui, lorsqu'on dit Total est un pollueur, ils le vivent comme une insulte matin, midi et soir. Donc il faut aussi penser à ces travailleurs et il faut voir la dimension sociale. Il y a une question de calendrier. On a, pendant des décennies, encouragé toute une série d'acteurs à aller sur une filière. On peut pas du jour au lendemain, sauf à assumer une casse sociale monstrueuse. Vous avez 13 millions de personnes qui travaillent dans l'automobile à l'échelle européenne. Ce sont des centaines de milliers d'emplois qui, dans le calendrier avec les normes européennes, sont menacés de disparition. Donc il faut travailler sur le calendrier, travailler sur un discours plus apaisé. Il faut être apaisant. On peut pas stigmatiser une entreprise comme celle-ci, dire elle a pas sa place au JO, alors que toutes les autres entreprises, si je prends, sans faire de publicité indigne sur le service public, McDo ou Coca-Cola, qui sont des partenaires traditionnels, j'ai pas le sentiment que ce soit les acteurs de la protection de la planète matin, midi et soir. Le bilan carbone, il existe aussi pour ce type d'entreprise. Donc voilà, je pense que le message a été passé, mais il faudra remettre autour de la table tous ces acteurs français.
On continue à parler avec notre invité François Barouin, maire de Troyes et président de l'association des maires de France, invité de France Info ce matin. On revient à vous juste après l'info à 8h40, Sois Zigbourg.
C'est grave qu'un chef d'État dise ça. Réaction ce matin sur France Info d'un professeur gréviste après les propos d'Emmanuel Macron qui les accuse d'être des preneurs d'otages en faisant de la rétention de copies du bac. Pontivy lance une opération sac ouvert pour identifier et retrouver ceux qui jettent les poubelles n'importe où. Les dépôts sauvages d'ordures se multiplient dans la ville du Morbihan et pour ceux qui récidiveraient, la mairie a prévu des sanctions. 68 euros d'amende par sac poubelle jeté sur la voie publique. 7 départements du sud-ouest en vigilance orange aux orages, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Et hier soir, dans le Rhône, 5000 mètres carrés d'un entrepôt sont partis en fumée à Villefranche-sur-Saône. La victoire des conservateurs en Grèce, hier aux élections législatives, Kyriakos Mitsotakis élu Premier ministre avec près de 40% des suffrages. L'ex-chef du gouvernement de gauche, Alexis Tsipras, a reconnu sa défaite. Et puis, troisième étape du Tour de France, aujourd'hui 215 km entre Binche et Épernay dans la Marne, le maillot jaune sur les épaules du Néerlandais Mike Tennissen après la victoire de son équipe hier au contre-la-montre à Bruxelles.
France Info. François Barouin est toujours l'invité de France Info. Vous êtes le président de l'Association des maires de France, l'AMF, qui s'est associé avec le CEVIPOF, le Centre de recherche sur la vie politique de Sciences Po. Et cette étude conduite ce matin par le CEVIPOF que France Info vous révèle dit que 3 Français sur 4 approuvent le bilan de leur maire et 60% souhaiteraient que leur maire se représente au municipal en mars prochain. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous satisfait en tant que président de l'AMF?
Oui, ce qui est, c'est une enquête absolument passionnante sur un panel très large.
Hein, 15 000 Français,
c'est pas un sondage sur 800 personnes. Hein, donc c'est vraiment, on rentre dans les sociostyles, dans l'inconscient, dans les besoins. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie évolution par rapport à 2014, où il y a eu là, en réalité, un vrai changement, ce que certains appellent improprement d'ailleurs un dégagisme, mais c'est une facilité de langage pour comprendre que à l'époque on disait sortez les sortants. Ce mouvement-là a existé en 2014, peut-être un peu d'usure, une génération qui est partie, et là on observe quelque chose. Alors est-ce que c'est ce que nous avons porté depuis 2 ans? Est-ce que c'est la manière dont nous avons alerté l'opinion publique sur la réalité du désengagement d'une bonne partie de leurs édiles à l'échelle locale, puisqu'il y a un an et demi, on était à plus de 50% des gens élu en 2014, qui annonçait leur intention de ne pas se représenter. Oui, mais... En tout cas, c'est rassurant. C'est évidemment réconfortant pour les équipes sortantes, mais c'est pas le plus important. C'est surtout l'enracinement et l'attachement des gens à une politique de proximité au coin de la rue.
Mais pourquoi cette exception, précisément, François Baroin? Pour faire court, les Français n'aiment pas beaucoup les responsables politiques, les ministres, le pouvoir national. En règle générale, les responsables politiques sont assez impopulaires. Les journalistes aussi, d'ailleurs, il faut le reconnaître, bien sûr. Pourquoi cette exception pour les maires élus de proximité? Ça vous semble être les derniers garants d'un fil démocratique parfois menacé de se rompre en France?
Oui, bien sûr. On est quand même pas loin du précipice, hein, en termes du pacte républicain. Je pense que, vous savez, la commune, c'est un héritage de la Révolution française. À l'époque, c'était des bourgs, des lieux-dits, des paroisses, et ça a été rassemblé dans une appellation commune, justement, et qui avait été choisie historiquement en 1790 pour bien montrer que c'était la vie en commun. Et la vie en commun, c'est la solidarité à l'égard des plus aînés, des plus fragiles, c'est l'amélioration du cadre de vie, et c'est le pacte républicain au quotidien. Donc, pour les Français, le maire est celui qui incarne la République. C'est cet hôtel de ville, c'est le drapeau au frontispice.
On a l'impression que les maires ont été renforcés finalement par la crise des Gilets jaunes et la crise de confiance entre les Français et leurs élus.
Oui, mais vous savez que ça fait plus de 4 ans que l'on mène une bataille pour expliquer que la baisse des dotations, cette mesure unilatérale que l'État utilise pour ne pas donner l'argent qu'il doit aux collectivités locales et qui a des conséquences sur l'investissement public. On a eu moins 25% d'investissement public en 3 ans à raison des mesures Hollande et le début des mesures Macron. Le financement des services publics. Et c'est ce besoin de services publics, ce besoin de proximité, ce besoin de rééquilibrer les territoires. La France, ça peut pas être juste Paris, même si on a besoin d'une grande capitale, et 6 métropoles, même si nous avons besoin de ces métropoles. Mais on en a besoin pas comme des aspirateurs qui récupèrent toutes les énergies, on en a besoin comme des pôles d'équilibre dynamiques qui tirent l'ensemble des régions vers le haut. Et ce besoin-là, il est ressenti par le maire, et nous le portons depuis de nombreuses années, donc d'une certaine manière, c'est une belle victoire pour nous, mais nous ne sommes que des passeurs pour les générations qui suivent, donc on est en fait des acteurs de cette République du quotidien, et les Gilets jaunes ont exprimé à leur manière, au début, avant la violence, cette revendication. Donc c'est vrai que nous sommes les porte-parole de nos territoires. Il y a plusieurs explications à cela. La suppression du cumul a fait des assemblées qui ont du mal à exister et qui donnent le sentiment d'être déracinées. Et on ne peut pas être de nulle part. Et c'est une fierté d'être
comme
de quelque
Larcher,
part.
Comme Gérard Larcher, le président du Sénat, vous pensez qu'il faudrait réintroduire le cumul des mandats pour permettre aux députés d'être également maires, ce qui n'est plus possible actuellement?
Vous voyez, aujourd'hui, à froid, tout le monde dira « mais oui, bien sûr, c'est probablement une bonne idée ». Et dès que la mesure arrivera, elle se fera tirer comme un plateau d'argile au moment des baltrapes du 15 août, tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'est plus tout à fait dans l'air du temps, mais c'est regrettable.
Vous pensez que c'est populaire auprès des Français aujourd'hui, le cumul? Le cumul des mandats, le cumul des indemnités?
Non, pas du tout. Justement, il y a cette confusion qui fait que les gens pensent qu'on cumulait toutes les indemnités sans plafond, on arrivait naturellement à une situation insupportable. Il y a une question qui est posée dans cette étude. Près de 90% n'en veulent pas. Donc cette question, elle est derrière. Il ne faut pas la remettre dans le débat. Je dis simplement que l'une des causes qui explique que l'attachement renforcé, ressourcé, fécondé à nouveau vis-à-vis de leurs élus locaux est liée au fait qu'il y a d'un côté les élus nationaux et qu'il y a de l'autre ceux qui, au quotidien, essayent d'améliorer par un bien-être, par des actions concrètes. Il y a aussi une dimension, me semble-t-il, c'est que le maire, il travaille sur tous les pans de la société. On travaille sur l'urbanisme, on travaille sur le social, sur le sport, sur les réseaux associatifs, sur la politique vis-à-vis des personnes âgées. On imagine redonner l'argent du contribuable sous forme d'investissement pour développer le territoire. En fait, notre boulot, c'est d'améliorer le bien-être. Et vous savez qu'il y a des théories au niveau international qui montrent que le bien-être est un facteur de croissance. Et les gens savent que le maire, c'est la première porte vers laquelle on se tourne quand on arrive. Pour l'état civil, c'est aussi la dernière quand on est en grande difficulté pour avoir un espoir de rebondir.
Le gouvernement doit présenter la semaine prochaine en Conseil des ministres, le 17 juillet, un projet de loi intitulé « Engagement et proximité » et dont l'objectif affiché c'est de, je cite, « réparer l'organisation territoriale ». Est-ce que vous avez le sentiment qu'à travers ce projet de loi notamment, Emmanuel Macron a tiré les leçons à la fois de la crise des Gilets jaunes qu'on évoquait et puis du grand débat national lors duquel le rôle des maires en fait a été remis un petit peu au centre du jeu?
Pour dire les choses, ça va un peu mieux avec Macron. Ça a été très dur pendant 2 ans. On a bataillé, on a eu des désaccords.
Très dur pourquoi? Il ne vous respectait pas, le chef d'État?
Il ne vous parlait pas?
La méthode, les objectifs et le calendrier tel que ça a été présenté dès son élection, objectivement, ça a été très maladroit, pour ne pas dire plus. La suppression de la taxe d'habitation était l'un de ses engagements de campagne. Pour autant, c'était un trou dans le budget de l'État.
Il s'est engagé à ce que l'État continue de financer les,
oui,
les collectivités.
Bien,
le manque à gagner, il sera...
La taxe d'habitation, elle était déjà, c'est vrai, largement mitée. Vous aviez 20% des gens qui ne la payaient pas et vous aviez 23% des gens qui étaient exonérés partiellement ou totalement. Donc vous aviez déjà plus de 43% des gens qui étaient en situation de ne pas participer à cet effort. Pour autant, c'était le lien entre le territoire et l'habitant. Et
L'État s'est engagé à compenser à l'euro près justement la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que vous lui faites confiance?
Alors, il faut qu'on regarde un peu dans le détail. Moi, j'ai demandé à l'État et j'ai demandé au gouvernement une expertise précise pour chaque commune. Parce qu'on a des désaccords sur les chiffres et je voudrais vraiment que les candidats aux municipales sachent précisément où ils vont mettre les pieds pour pouvoir prendre les engagements vis-à-vis de leurs administrés et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Mais on va remplacer la
table. Vous ne lui faites pas confiance.
En tout cas, on est autour de la table. On discute, on n'aime pas cette réforme, pour le dire franchement, et on l'aime pas tellement non plus parce que ils vont nous donner le foncier. Alors l'assiette est effectivement plus large, les petites communes rurales qui ont plus de foncier vont s'en sortir, mais plus on va grandir dans la taille, plus il va falloir compenser. Alors, c'est de la discussion technique, on ne va pas ennuyer vos auditeurs, surtout un lundi matin, en début de vacances.
A priori, les auditeurs, ils aiment plutôt la suppression de la taxe d'habitation. Vous dites
que
vous n'aimez pas.
Bon, on ne tire pas sur le Père Noël. D'ailleurs, si on leur avait dit qu'on supprime la CSG au lieu de l'augmenter, ils auraient dit, tiens, c'est super. Ou si on baisse la TVA au lieu d'avoir des projets de cette nature, ils auraient dit, c'est génial. Sauf que l'État, et ça les gens ont bien compris, Emmanuel Macron a fait le bonheur des gens avec l'argent des autres. C'est-à-dire qu'il a supprimé un impôt qui ne lui appartient pas, lui, chef d'État, mais qui relève de la libre administration des collectivités territoriales et qui nous donnait notre indépendance. Mettons ce sujet de côté, on va discuter, on n'aime pas, on continuera de le dire. On a une contre-proposition qui est un dégrèvement total que nous demandons au gouvernement d'examiner.
Qu'est-ce que ça veut dire nationaliser
le dégrèvement, c'est ça. C'est le contribuable était local. Il avait son lien, il donnait de l'argent à la commune, il savait qu'en échange, il y avait des services publics ou de l'investissement. Il devient national et nous, ça nous donne des garanties au fond de base, c'est-à-dire de volume de recettes pour financer nos projets. Et ça nous donne aussi des perspectives indexées sur l'inflation de garantie de ces recettes dans la continuité. Là où nous ne faisons pas confiance à l'État, c'est pas cet État, c'est sa capacité à tous les représentants des gouvernements de tenir leur engagement de garantir des recettes dans la durée. Sur le sujet proximité, je trouve que le texte va plutôt dans le bon sens. C'est effectivement plutôt une victoire pour ce que nous portons, nous, aux maires de France depuis de nombreuses années. Le gouvernement a repris à son compte quelques propositions, un peu corriger ses interco XXL, offrir plus de liberté aux communes.
Ça, c'est l'intercommunalité. La possibilité de revenir un peu en arrière sur l'intercommunalité, c'est-à-dire de permettre aux communes de retrouver davantage d'autonomie, ça, vous y êtes favorable?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'on est allé trop loin en termes de regroupement de communes ou d'intercommunalité?
En fait, François Hollande a sacrifié les collectivités locales pour repousser les 3% de déficit à 2017 alors que c'était en 2013. Du coup, on a eu du gigantisme à tous les étages en disant ça va faire 12 milliards d'économies. Trouvez les 12 milliards, mettez des journalistes de grande qualité, ils le sont tous ici, pour regarder les 12 milliards sur 3 ans, il n'y a rien. On a des régions qui sont plus grandes que des États et par définition, pour que les communes existent, elles se sont mises en situation d'être un peu plus visibles, donc d'avoir une taille un peu plus XXL, mais ça a malheureusement impacté sur la vie de petites communes. Il faut leur offrir la faculté si elles le désir de sortir. Il ne faut pas refaire un chamboule-tout, on ne veut pas refaire du mécano administratif, mais on veut un peu plus de liberté, le texte en propose.
François Baroin, maire de Troyes et président de l'Association des maires de France, vous restez avec nous, on va parler notamment de votre famille politique, les Républicains, dans un instant, juste après l'info à 8h50, soit Zigbourg.
Les oraux de rattrapage démarrent aujourd'hui et 10 000 copies sont encore retenues. Hier sur France Info, Emmanuel Macron a dénoncé une prise d'otage de la part des enseignants grévistes. Des propos jugés déplacés par le SNES FSU, principal syndicat enseignant. Le gouvernement dévoile son plan de lutte pour lutter contre les pénuries de médicaments. 500 provisoirement indisponibles chaque année, c'est 20 fois plus qu'il y a 10 ans. L'exécutif envisage de sanctionner les laboratoires pharmaceutiques. Au Venezuela, le dialogue reprend entre l'opposition et le gouvernement. Troisième ronde de pourparlers sur l'île de la Barbade. Nicolas Maduro et Juan Guaido vont tenter de trouver une solution à la crise politique. L'opposant souhaite le départ du président et des élections libres avec des observateurs internationaux. Et puis une messe pour les migrants et les réfugiés aujourd'hui à Rome. Célébration du pape dans la basilique Saint-Pierre, 6 ans, jour pour jour, après sa visite sur l'île de Lampedusa. Samedi, un navire d'une ONG allemande a bravé l'interdiction d'accostage dans ce port et débarqué 41 migrants.
Info. François Baroin, invité de France Info ce matin, vous êtes le président de l'Association des maires de France, vous-même maire de la ville de Troyes. Ce matin, sur une radio concurrente, BFM TV pour ne pas les citer, Rachida Dati dit qu'elle sera candidate à la mairie de Paris, quoi qu'il arrive en quelque sorte. Elle affirme avoir le soutien de Nicolas Sarkozy. Est-ce que Rachida Dati est une bonne candidate pour les Républicains à la mairie de Paris?
Vous le savez, je me suis mis vraiment en retrait de la vie partisane depuis 2 ans. Je n'ai plus d'engagement que mon engagement local qui me passionne et qui me suffit. Et j'ajoute que je n'aimerais pas que des gens de Paris viennent regarder ce qui se passe à Troyes ou dans d'autres communes. Donc je vais m'abstenir de tout commentaire. Ça va vous décevoir beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'on ait des gens à droite qui souhaitent être candidats, puisqu'on dit qu'elle a complètement disparu cette droite sur Paris, et qui essaye de relever le regard pour le porter un peu plus loin. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien.
Vous êtes mis en retrait de la vie partisane, pas tant que ça quand même, François Bormann, puisqu'il y a quelques jours vous avez donné une interview dans laquelle vous expliquiez, vous reprochiez aux Républicains, je vous cite, d'être devenu l'équivalent d'un Tea Party à l'américaine, de s'être éloigné de la vocation d'un parti de gouvernement. Vous reprochiez aux Républicains une dérive, je vous cite toujours, vers l'expression de revendications de nature identitaire, sociétale ou religieuse. La faute à qui, à Laurent Wauquiez ?
Alors, je me suis exprimé parce que j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Christian Jacob, que je connais depuis 25 ans. On a été élevé au lait du chiracisme, on a mené une bataille qui était l'héroïsme obscur que vous avez connu, Renaud Dely, à l'époque où Chirac était à 12% et que plus personne n'y croyait. Et 5 mois plus tard, il était président de la République, ça veut dire que tout est possible.
Donc vous soutenez Christian Jacob pour la présidence
de la République. Et donc je soutiens Christian Jacob parce que c'est un homme d'expérience et que je pense que compte tenu de la situation de cette famille politique qui a tant à porter au pays, qui est le gaullisme, avec les démocrates chrétiens, avec les radicaux, avec les libéraux, produit plusieurs présidents de la République, offert un certain nombre d'acquis sociaux, modernisé, transformé.
Il sera capable de relever le Parti des Républicains, Christian Jacob. C'est pas vraiment le renouvellement.
Il y aura 3 temps. Oui, mais à un moment donné, le jeunisme trouvera les limites dans la capacité, compte tenu des circonstances, d'offrir des capacités de rassemblement. Et je pense que l'expérience de Christian Jacob, il a réussi partout où il est passé, quand il était ministre, maire de province ou président de groupe, va répondre au premier temps de rassemblement, au deuxième temps de reconstruction. Il y aura ensuite le temps de l'incarnation. Mais c'est bien plus tard. C'est tellement long.
Et en tout cas, ça sera sans lui pour 2022, puisque Christian Jacob ne fait pas de mystère. Il ne sera pas candidat en 2022
oui, mais
à la présidentielle.
C'est pour ça que, compte tenu des circonstances, c'est bien le fond qui compte. C'est vrai. C'est y parti, en fait, à l'américaine, où les gens... doivent l'entendre. En fait, ils défendent une ligne. C'est pas indigne de défendre une ligne. C'est pas indigne d'être sur des questions identitaires ou sociétales ou religieuses. Simplement, de mon point de vue, ça relève plus de l'intime que de l'espace public où cela a pris tellement de place qu'on est arrivé à la conclusion que, au fond, ce qu'il reste de la droite après l'élection d'Emmanuel Macron ne repose que sur ce type de socle. Or, notre vocation... La famille gaulliste, c'est de gouverner le pays.
Ça, c'était une erreur, donc, de confier la tête de liste des élections européennes à quelqu'un comme François-Xavier Bellamy, qui peut incarner cette ligne que
vous avez. Qui, par ailleurs, un garçon de grande qualité, de bonne éducation, qui était charmant, qui a fait une campagne vaillante, qui s'est donné, mais la réalité politique, elle s'impose à vous.
Vous avez voté pour lui, aux européennes?
Oui, parce que je suis un homme de fidélité politique. Voilà, ça me semble inconcevable de changer comme cela. Oui, bien sûr, il a porté quelque chose, mais pour autant,
même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il porte,
tout le monde connaît mes engagements en matière de renforcement du pacte républicain. Je suis à l'origine, à travers un rapport, de l'interdiction du voile à l'école. De même que, comme président des maires de France, j'avais pris une vague sur les réseaux sociaux lorsque nous avions proposé un vademécum sur la place des crèches dans les hôtels de ville. Donc là-dessus, je suis relativement insusceptible de mettre dans le débat public l'expression d'une ferveur personnelle ou d'un doute ou d'un scepticisme. Je pense profondément que la laïcité, qui était une valeur de gauche et qui, par le travail que nous avons fait, est devenue aussi une valeur de droite et quelque chose qui est dans le pacte républicain et qui fait partie globalement de nos projets. Mais si on ne parle plus que d'espérance personnelle, de faits religieux ou de problématiques sociétales, mais comment voulez-vous que les gens qui aujourd'hui se disent tiens Macron est peut-être le représentant de la droite reviennent vers nous? Je pense que tout est possible. Regardez la droite qui vient de gagner en Grèce. Elle était moribonde il y a quelques années. J'étais ministre des Finances de Sarkozy, on était avec des représentants, c'était Papandréou, il proposait un référendum sur la sortie de l'euro, et il a disparu. La gauche et la droite ont disparu. La droite est revenue, Tsipras s'en va. Donc il faut être confiant. Et moi j'ai confiance dans cette famille, j'aiderai Christian Jacob, je ne veux aucune responsabilité, juste continuer cet engagement local, mais je l'aiderai sur
on
le
fond. On a parlé de vous comme d'un éventuel recours, vous fermez cette porte aujourd'hui.
Il n'y a pas d'homme providentiel, quelles que soient les qualités, la reconstruction elle va se faire sur le fond, il faut se refixer comme objectif d'être un parti de gouvernement. Rappeler l'historique.
Sur le fond, justement,
une base très populaire.
Vous évoquez cette ligne, sortir de ces revendications religieuses, sociétales que vous évoquiez.
Exclusivement.
Très rapidement, il va y avoir dans quelques jours la présentation du projet de loi de révision des lois bioéthiques qui porte notamment sur l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Vous souhaitez que votre famille politique soutienne cette réforme de la PMA pour toutes?
En tout cas, je souhaite qu'elle offre pas un visage crispé sur un sujet de cette nature. Il faut regarder la France telle qu'elle est. Les réalités.
Vous l'approuvez, la PMA pour tous?
Moi, si j'étais parlementaire, je la voterais. Je n'ai aucune interrogation là-dessus, même si mes positions n'étaient pas celles-ci au départ, et on était peut-être un peu trop crispés, trop figés. Il faut penser à ces femmes qui partent à l'étranger dans certaines circonstances pour pouvoir ensuite avoir des enfants et les accompagner. Donc il faut être plus ouvert, moins crispé, moins étriqué. Il faut accepter de regarder la France telle qu'elle est. Et il faut pas vivre dans une nostalgie de ce que l'on imagine être sur un papier. C'est une réalité vivante, c'est une addition d'hommes et de femmes, c'est une construction formidable, le projet de diriger un pays. Et pour ce qui nous concerne, notre objectif, c'est d'imaginer ce que serait une action à la tête du pays à l'issue du mandat de Macron pour offrir une alternance. Et il faut sortir de ce piège à loup dans lequel on veut nous enfermer entre d'un côté Macron et le reste le chaos. Ça, c'est un devoir démocratique. Et je prendrai ma part modestement là où je serai, aux côtés de Christian Jacob, je l'espère, pour sortir de ce piège à loup.
Les élections, je le précise, ce seront les 12 et 13 octobre prochains et un deuxième tour la semaine d'après si nécessaire. Merci à vous,
merci
François
à vous.
Barouin, maire de Troyes et président de l'Association des maires de France, d'avoir été l'invité de France Info ce matin. Belle journée.
Merci.